Voilà, bonsoir. Pendant que vous cherchez Hébreux chapitre 12, verset 12, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour cette soirée. Merci parce que tu as déjà prévu quelque chose pour cette soirée, Seigneur. Et nous voulons être attentifs à ta parole, comme nous l'avons dit, à même une seule parole de ta part. Parce que ça peut changer, transformer les vies. Il y a une œuvre surnaturelle qui peut se passer ce soir si on place notre confiance en toi. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de prendre en main ces instants. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais donc commencer ce moment par ce verset qui est dans Hébreux, chapitre 12, verset 12. Facile à retenir. Hébreux 12, 12. Je vais quand même me prendre les notes. Hébreux chapitre 12 et le verset 12, il est dit ceci: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Ça, c'est seulement un texte d'introduction pour la lecture principale qui se trouve dans Actes. Et le chapitre 3, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, c'est l'histoire d'un homme qui a une particularité, c'est qu'il est boiteux. Verset 1, il est dit ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. On voit dans ce chapitre cette histoire, une merveilleuse histoire, on voit un homme qui est boiteux, et on voit un homme qui est dans une difficulté, on voit un homme qui traverse une épreuve dans sa vie, et qui une épreuve qui dure depuis sa naissance, il nous est dit. Il était boiteux de naissance. Certaines fois, on peut devenir boiteux suite à un accident. Lui, il était boiteux de naissance. Peut-être dû à une forme malformation, on n'a pas de précision à ce sujet. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il était dans une situation difficile, une situation terrible. Et combien savent aujourd'hui que des situations terribles, il y en a tous les jours. Peut-être qu'il y en a une dans votre vie, peut-être que moi j'en ai traversé, et on sait que personne n'est épargné par les épreuves, personne n'est épargné par les situations difficiles. Et moi j'ai appelé sa situation, je l'ai comparé à un désert. Et on va voir pourquoi. Pourquoi je les compare à un désert. Mais la première question que je vais vous poser, parce que vous êtes participants, c'est qu'est-ce qu'un désert pour vous? Et en me répondant, on va pouvoir avancer dans ce message. Donc si vous ne me répondez pas, eh bien j'attendrai. Qu'est-ce que ça vous évoque, le désert? La solitude. C'est un premier point. Un lieu sans repère aussi, oui. La chaleur, oui, toutes ces choses. C'est tout. Il n'y a que ça qui vous marque dans le désert. La sécheresse. Ah, voilà, ça je l'attendais. Eh bien, c'est bien. C'est bon. Mais on peut s'en aller. Non. Vous avez fait toute la prédication. Mais maintenant, on va l'appliquer. Et on va voir comment cet homme, surtout, dans son histoire, il a vécu toutes ces choses. Vous allez me dire, mais là... Mon pauvre, c'est pas marqué qu'il a traversé un désert. On va voir comment spirituellement C'est le cas. Spirituellement, il a connu un désert dans sa vie, une épreuve qui est comparable à un désert. Et la première chose qu'on a dit, c'est la solitude. C'est vrai que quand on dit cet endroit est désert, on comprend tous que ça veut dire qu'il n'y a personne. D'accord ? Mais cet homme, pourtant, on ne l'a pas lu, il se trouvait devant le temple. Et il faut savoir que le temple, à cette époque, c'était un lieu où il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de fourmillements, il y avait beaucoup d'activités qui se passaient tout autour du temple. Même dans le temple, il y avait certaines activités auxquelles Jésus a dû mettre fin. Mais déjà, devant le temple, il y avait beaucoup de monde. Et la Bible nous dit que cet homme, il avait quelques amis, enfin du moins on en déduit qu'il avait quelques amis qui l'aidaient, qui le prenaient. Et d'ailleurs, ces amis, on a leur nom, ils s'appellent On. On portait le boiteux et on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Le nom de ses amis, c'était On. C'est-à-dire que, en fait, on n'a même pas eu besoin de préciser leur nom, tellement ils avaient de l'amitié pour lui. Tellement la façon dont ses amis avaient de l'aider, c'était de le prendre d'un endroit et de le mettre à un endroit où il y aurait un peu plus de monde pour qu'il gagne un peu plus d'aumône, pour qu'il ait un peu plus de sous dans sa gamelle. C'était ça, ses amis. Est-ce que c'est le genre d'ami que vous aimeriez avoir? Vous êtes d'accord que non? Moi, ce n'est pas le genre d'ami que je voudrais. Moi, je vois des gens qui vont dans le temple, qui rentrent, qui sortent. La première chose que je dirais, c'est « prier pour moi ». Là, il n'y en a aucun de tous les religieux qui avaient peut-être prié pour lui. Ils allaient au temple, sans un regard peut-être. Vous savez qu'à l'époque, Jésus, il a pris une parabole. Il a pris cette image du Samaritain qui se fait attaquer par des bandits et que les hommes religieux de l'époque, ils l'ont vu, ils sont même changés de trottoir. Parce qu'ils ont vu l'homme dans sa misère, dans sa blessure. Mais eux, ils étaient dans la tradition, il ne fallait surtout pas toucher un homme impur. Alors, ils ont changé de trottoir. Ça parle déjà. Mais cet homme, oui, il est dans le désert, la solitude. Cet homme, il est dans le désert parce qu'il n'a pas d'amis. Et cet homme, il est dans le désert parce qu'il est seul dans son infirmité. Il est seul dans son infirmité, il est boiteux, il penche d'un côté et personne qui est là, qui peut le comprendre. Et moi, la question que j'aimerais poser ce soir, c'est est-ce que vous savez que tous, autant que nous sommes, soit nous l'avons été, soit nous sommes boiteux. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas Dieu, et même quand on le connaît d'ailleurs, on a toujours besoin d'avoir une vie équilibrée. Et que plus on connaît Dieu, plus on a une vie équilibrée. Et quand on ne le connaît pas, eh bien on a souvent un mauvais penchant. Et vous êtes d'accord qu'un boiteux, il penche. Il penche d'un côté, c'est ce qui fait qu'il est boiteux. Il y a souvent un manque d'équilibre dans les vies. Par exemple, concernant l'amour, il y en a qui aiment tellement les gens, qui leur pardonnent tout, qui ne les corrigent jamais, qui ne leur disent jamais rien. Par exemple, si vous aimez tellement votre enfant de cette façon, eh bien, je peux vous assurer que vous allez avoir quelques soucis à l'adolescence. Parce que ça, mais même avant. Ça va aller vite. Et par contre, il y en a qui sont tellement sévères, qui la moindre petite, le moindre battement de cils de travers, on corrige. Vous savez que notre Dieu, lui, c'est un Dieu parfait, parfait dans sa sévérité, mais parfait dans sa bonté en même temps. Et il est parfaitement équilibré. Voilà pourquoi, quand on ne le connaît pas, on peut avoir ses penchants, on peut être boiteux spirituellement. Mais quand on le connaît et quand on apprend à le connaître, alors on se laisse remplir de son amour et Dieu corrige ce qui a besoin d'être corrigé. On l'a lu, affermissez ce qui dévie, affermissez ces choses qui sont boiteuses dans vos vies. Seigneur veut que nous soyons affermis. Si nous le connaissons, il va nous apprendre encore. Si nous ne le connaissons pas, bien c'est l'occasion pour le connaître. Comment on peut être boiteux aussi? C'est quand on a sur le dos un lourd fardeau, quand on a quelque chose qui pèse sur notre dos. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir avec un sac de 50 kilos rempli de pierres? Bon, vous allez courir peut-être, allez, si vous êtes fort, vous allez courir 10 mètres, 15 mètres. Et au bout des 15 mètres, vous allez commencer à ralentir, et puis à un moment donné, vous allez boiter. Parce que vous allez, sous le poids, à force, la fatigue, toutes sortes de choses qui font que Quand on a un lourd fardeau, on ne peut pas marcher normalement. Et combien de personnes se sont peut-être, sans le vouloir, ils ont pris un fardeau ou se sont laissés mettre un fardeau. C'est-à-dire qu'ils ont entendu quelqu'un. Vous savez, Jésus, à l'époque, il reprochait aux pharisiens, qui étaient des hommes très, très, très religieux, mais surtout pas amour. Eux, ils faisaient beaucoup de rites, beaucoup de choses, sacrifices, beaucoup de paroles. Ils connaissaient la loi par cœur, mais ils ne mettaient rien en pratique. Ils ne mettaient que les choses qui frappaient le regard. Ils recevaient les honneurs des hommes, mais c'est tout. Et il a dit à ces hommes-là, vous mettez des lourds fardeaux sur le dos des autres, mais vous ne les déplacez même pas du petit doigt. Il a fait ce reproche à ces hommes-là. Et souvent, on s'est peut-être laissé envahir, on s'est peut-être laissé surprendre par un fardeau que quelqu'un nous a dit. Et vous savez, ce fardeau, ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme ça, mais c'est peut-être une parole. Tu vois, t'as fait ça ou t'as regardé ça. Tu iras jamais au ciel. Tu ne mérites pas le salut. Peut-être une parole comme ça, une parole qui n'a aucune valeur biblique. Parce que le salut ne se mérite pas. Et peut-être que toute votre vie, vous avez été sous un fardeau, qu'une parole ou un mot qui résonne dans votre tête depuis des années et des années, qui fait que vous êtes comme boiteux. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Matthieu 11, 28, au verset 30. On le connaît bien, mais je vais le relire quand même. Regardez, pour tous ceux qui sont boiteux à cause d'un fardeau, Matthieu 11, 28, « Venez à moi », c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Vous allez me dire, mais il dit de venir à lui pour déposer notre fardeau, et il nous dit de prendre son joug. Oui, mais regarde la suite. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » La seule différence entre le fardeau, mais qui est de poids, c'est le cas de le dire, c'est entre le fardeau donc qu'on prend sur nous depuis des années et le fardeau que le Seigneur veut qu'on porte, c'est que le sien est léger. Et il ne va pas nous empêcher de marcher. Il ne va pas nous empêcher même de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Au contraire, plus on va porter ce fardeau et plus on va avoir les forces renouvelées par le Seigneur. Ce boiteux, donc, il a connu la solitude de par le fait qu'il n'avait pas d'amis, de par le fait qu'il était dans une situation que personne ne pouvait le comprendre. Mais, regardez ce que le psaume 25,14 nous dit, je le lis pour vous, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Peut-être que dans ce monde, tous tes amis t'ont tourné le dos pour une raison quelconque. Mais sache que si tu crains Dieu, tu auras l'ami le plus fidèle, l'ami le plus juste, l'ami le plus droit, l'ami qui peut, sur lequel tu peux compter en tout temps, l'ami qui ne te décevra jamais, l'ami qui t'aidera tous les jours de ta vie. Et combien savent que ce n'est pas facile à trouver des amis comme ça. Mais voilà, le seul au monde qui est un ami de cette sorte, c'est Jésus-Christ. Et si ce boiteux, il a connu le lieu de la solitude, il a connu un désert de par la solitude, il a aussi connu un désert, il a connu ce lieu où rôdent les bêtes sauvages. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là? Parce que là, on n'a pas lu du tout qu'il y avait des bêtes sauvages. Je vais vous expliquer, simplement, ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce qu'il y a comme bête sauvage et le plus nocif, on va dire, dans le désert? Je l'ai entendu. Serpent, exactement. Et alors, je resitue l'action parce que on n'y pense pas toujours. Il y a aussi, dans le désert, il y a aussi les carnivores, les bêtes carnivores, mais dans le désert du Sinaï en particulier, qui était un semi-désert, je crois, et bien là, il y avait la Bible nous parle qu'il y avait des lions également. Sinon, dans le désert classique, il y a des chacals ou des... Je ne sais pas exactement tous les termes. Mais en bref, il y a des êtres carnivores. Mais ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à cette pensée toute simple. Je ne suis pas un biologiste, je ne connais rien à la vie des animaux, tout ça. J'ai juste lu quelque chose. Une chose qui m'a frappé en particulier, c'est
c'est que tous ces animaux, quels qu'ils soient, le moment où ils attaquent, le moment propice de l'attaque, c'est la nuit. Quand la chaleur est tombée, ils sortent pour aller chasser. Et voilà le lien. C'est que j'imagine maintenant cet homme la nuit. Parce que là, on le lit, c'est en plein jour. On lit sa journée habituelle, on va dire, jusqu'au moment où il rencontre Pierre et Jean. Mais imaginez-le la nuit. La nuit. Quand il se retrouve seul, encore une fois, mais là vraiment seul, c'est-à-dire personne autour de lui, il se retrouve seul face à ses pensées. Il se retrouve seul et vous savez ce qu'il va entendre ? Il va entendre, en étant tout seul comme ça, il va entendre le rugissement de l'adversaire. Ses pensées qui vont lui dire « Ça ne sert à rien. Tu reviens jour après jour devant le temple, mais ça ne sert à rien. Tu vois que ça ne change rien à ta vie. Tu vois qu'il n'y a rien qui peut arriver. C'est impossible que ta situation puisse changer. Allez, à la limite, donne-toi la mort maintenant, comme ça sera fait. » Vous entendez ces rugissements ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des pensées comme ça dans votre vie ? C'est les bêtes sauvages du désert qui commencent à titiller notre esprit, qui commencent à essayer de nous trouver des failles. Vous savez ce que dit la Bible ? Que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il est dit aussi, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Et toutes ces nuits où ses pensées peuvent l'assaillir et venir à son encontre, Jésus voudrait lui dire. Jésus lui tend la main. Et vous savez, ce n'est pas écrit la nuit qu'il a passée la suivante. Mais combien j'aurais aimé être là, à cette nuit-là. Je ne sais pas s'il a dormi même. Tellement il devait être joyeux, il devait sauter et faire un marathon de joie. Tellement il était heureux d'avoir connu la bénédiction de Dieu. Mais on l'a dit aussi, la nuit, enfin, plutôt dans le désert, il y a les lions et il y a les serpents. Les serpents, vous savez ce que c'est ? Alors, je ne parle pas du tout de l'image du serpent d'Adam et Ève et tout ça. Je ne parle pas du tout dans ce sens-là. Même si c'est vrai que c'est une symbolique du diable. Mais le serpent, ça représente aussi toutes ces mauvaises compagnies qu'on peut avoir autour de nous et qui vont nous donner des paroles qui ne vont pas forcément nous encourager, bien au contraire, qui vont nous enfoncer, des paroles dont ça va être un venin qui va venir immobiliser notre vie. Parce que le but du serpent, vous savez, c'est de nous immobiliser par son venin afin de pouvoir nous manger, ou enfin, quand ils peuvent nous manger, parce que les petits ne peuvent pas, mais au moins se défendre comme ça. Et regardez ce qu'il est dit dans le psaume 140 de ces personnes-là qui sont de mauvais conseils. Ils aiguisent, 140 verset 3, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous savez que l'aspic, c'était un serpent mortel. On était piqué, on mourait dans quelques secondes après. Et c'est ces personnes qui se permettent de dire, n'écoute pas ce que tu entends à l'église, tu as le temps, tu es jeune, tu peux profiter de la vie. N'écoute pas toutes ces paroles qu'on te chantonne. Prends le temps, va en boîte de nuit, va bois un peu pour oublier ta souffrance. Et quand on réalise les conseils, quand on voit surtout les personnes qui ont écouté les conseils de ces personnes, quand on voit les personnes qui sont tombées dans l'alcool parce qu'on leur a dit « bois pour oublier ton problème », quand on voit qu'après ils sont devenus malheureux toute leur vie, dépendants, ils ont eu une dépendance, ils ont voulu peut-être à un moment donné s'en sortir, mais ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils ont écouté les mauvais conseils. Ce soir, mon ami, si tu entends le lion rugir, si tu entends les serpents, peut-être qui te susurrent des mots doux à l'oreille, ne les écoute pas, écoute la voix du Seigneur, la voix qui te dit, viens à moi, tel que tu es. Viens à moi, si tu te sens indigne, eh bien, c'est bien, il n'y a pas besoin de se sentir digne dans la présence de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire en Jésus et en son sacrifice qui te permet de t'approcher, d'aller dans sa présence. N'écoute pas toutes ces paroles, écoute la voix du Seigneur ce soir. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la promesse de Jésus, elle est certaine, elle est pour ce soir, et c'est celle-ci, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi,
C'est Jésus qui le dit. Rien, rien au monde ne pourra vous nuire. La promesse, elle est pour aujourd'hui. Troisième chose, alors que cet homme, il a connu et il connaît le désert, la solitude, il connaît le désert avec les bêtes sauvages, il connaît aussi le désert comme un lieu stérile, un lieu où ça ne sert à rien. Il vient et ça, jour après jour, ça se répète, c'est la même histoire, la même rengaine. Et qu'est-ce qui se passe dans un lieu qui est stérile, dans un lieu où il y a le soleil qui frappe? À un moment donné, on a soif. Bien. À un moment donné, on a soif. Et regardez l'attitude de cet homme. Verset 5, il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Cet homme, malgré toute son épreuve, malgré tous les déserts qu'il traverse, tous les lieux différents, toutes les sortes d'épreuves qu'il traverse, autant corporellement que physiquement, que spirituellement, pardon. Cet homme, il avait soif de quelque chose de nouveau. Et il en avait marre, excusez-moi l'expression, mais il en avait marre de cette situation qui durait et qui durait depuis des années. Et peut-être dans les versets, dans les instants qui précédaient, quand il a vu Pierre et Jean s'arrêter, il s'est dit, bon, mais après tout, ce sont des gens comme les autres, ils vont peut-être me donner une piécette. Et à un moment donné, où il y a quelque chose qui a changé dans son attente. Quelque chose a changé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Quelque chose, une révélation du Seigneur de quelque chose qui allait changer. Quand il a vu le regard de Pierre plein de foi, quand il a vu Jean qui était derrière, je pense qu'il priait de tout son cœur, quand il a vu le prendre par la main, il aurait pu dire, non mais laissez-moi tranquille, je veux pas que vous me touchiez, je veux que vous me donniez de l'argent. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Et quand on a soif, je reviens à cette image, mais quand on a soif, il y a une chose qui se passe quand on est dans le désert et qu'on a soif, c'est qu'à un moment donné, notre esprit, il s'affaiblit et on commence à avoir des hallucinations, on commence à avoir ce qu'on appelle des mirages, qui sont dus aussi à la chaleur. Et regardez le verset 3. Regardez quel mirage il avait cet homme, avant que ça se passe toutes ces choses. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, leur demanda l'aumône. Ce soir, mon ami, j'aimerais te dire que l'argent, c'est un mirage. L'argent, c'est un mirage. Combien d'hommes sont perdus dans le désert, donc courent et courent en vain. Vous savez, quand on voit un mirage, et c'est souvent une étendue d'eau, un oasis qu'on voit, la personne elle va se mettre à courir parce qu'elle a soif, elle va courir de toutes ses forces, elle va arriver à un endroit, et puis finalement, c'est pas là que se trouve le mirage, il s'est décalé un peu plus loin. On court, et on court encore, on court en vain. Et à chaque fois, tous les efforts qu'on dépense, qui sont précieux dans le désert, vous êtes d'accord? Tous ces efforts vont ne conduire à rien du tout. On va en sortir vide et plus fatigué qu'on est parti. Parce qu'on a écouté le mirage, parce qu'on a suivi ce que nos yeux nous disaient, on a suivi nos sens. L'argent est un mirage. Et quand je pense à ça, je pense à cet homme qui joue à la bourse et qui, du jour au lendemain, il avait peut-être une fortune, des millions, et dans un instant, en un claquement de doigts, en un clic de souris peut-être, il perd tout. Il se retrouve à la rue, il se retrouve sous les ponts à dormir en SDF. Je pense à ce jeune homme qui, pour avoir gagné de l'argent facile, pour se faire de l'argent rapidement, avoir une belle voiture, il va se mettre à vendre de la drogue parce que ça paye bien, et parce qu'il ne faut pas beaucoup d'études, mais par contre ça détruit des milliers de vies, et ça met sa situation en danger, c'est-à-dire que ce jeune homme, je ne pense pas qu'il passe ses nuits tranquillement à dormir comme un bébé, je pense qu'il doit être continuellement en proie à une angoisse, savoir est-ce que je vais me faire descendre ce soir ou pas, est-ce que je vais me faire... Ça c'est ce que l'argent apporte. Je ne dis pas que le fait de posséder de l'argent c'est mal, mais je dis que courir après l'argent en espérant avoir le bonheur, ça ne marche pas. Courir après l'argent en espérant sortir du désert, ça ne marche pas. Cet homme, il a couru, et d'une certaine manière, pendant un temps, il a couru après l'argent. Il faisait l'aumône. Mais est-ce que vous êtes d'accord que si quelqu'un était venu avec une brouette remplie d'or et lui avait déposé sur ses pieds, il n'aurait pas marché pour autant? Vous êtes d'accord? Parce que l'argent, ça n'achète pas la guérison. L'argent, ça n'achète pas le sommeil. L'argent, ça n'achète pas toutes sortes de choses. Et ces choses-là, par contre, Dieu peut les donner.
Dieu peut répondre à ses besoins. Et moi, j'aime le Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand il répond à un besoin, il répond exactement aux besoins aux besoins de cet homme. Là, la situation est claire. Cet homme, il fait l'aumône et il a besoin de guérison. Dieu, il ne lui donne pas d'argent, il le guérit. Et combien savent que quand on est guéri, on peut se permettre d'aller travailler, on peut gagner des sous, on peut dépenser, se dépenser sans compter, on peut suer pour pouvoir gagner des sous de notre propre chef. Plus avoir la honte, l'humiliation d'aller faire l'aumône. Cet homme, il est dans cette situation. Par la grâce de Dieu, Dieu le bénit et il dépasse le mirage de l'argent. Mais il y a un autre mirage qui est au verset 2. Donc il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. C'était une porte qui était merveilleuse. Porte, si vous la voyez, vous seriez en admiration. Mais c'était une porte. Et elle ne pouvait rien pour lui. C'était une porte qu'il n'avait même pas le droit de franchir. Il était sur le seuil, mais il n'avait pas le droit de franchir cette porte. Et qu'est-ce que ça image comme mirage ? Ça nous parle de la religion. La religion est un mirage. Et là, je ne fais pas allusion à une religion en particulier, mais toutes les religions, quelles qu'elles soient, d'autant plus la religion évangélique, c'est-à-dire quand on vient à l'église, mais de façon religieuse, il faut venir, parce qu'il faut venir. Je viens parce qu'il faut venir. Quand on fait toutes espèces de pratiques et de rites qui sont sans vie, et qu'on se permet en dehors d'avoir une vie totalement différente. Ça, c'est le mirage de la religion. Combien savent que ça sert à rien. La Bible, elle nous parle d'une religion pure et sans tache. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Cette religion, ça consiste à visiter les personnes qui sont dans le besoin, l'orphelin, la veuve, et se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache, c'est cette foi qui va agir avec l'amour. Avec la religion, je ne vais pas sortir dans la rue et me mettre à aimer tous les gens que je vois passer, aimer mon prochain comme moi-même. Mais par l'amour de Dieu, par la foi agissante avec amour, je vais pouvoir aimer. Parce que ça ne viendra pas de moi, mais ça viendra de mon Dieu. Et la solution à ces mirages, il y en a tellement d'autres dans les vies, mais la solution à ce mirage-là, c'est pas raisonner et comprendre pourquoi il y a un mirage, comment ça se fait. Je voudrais comprendre le phénomène scientifique qui fait que pourquoi il y a un paysage qui est là et pourquoi il se retrouve à cet endroit avec la chaleur, avec le rayon du soleil. C'est pas important. Le mirage, il est là, d'accord ? Le seul moyen de plus avoir de mirage, c'est de boire. Et où c'est qu'on peut boire ? Comment boire ? Qu'est-ce que la Bible, elle dit sur le fait de boire au niveau de notre âme ? Acte 3, verset 19, écoutez ce que Pierre y dit suite à tout ce qui se passe. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Jean, chapitre 7, 37, nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus, il était confronté à toute une espèce de population, de gens qui fourmillaient dans tous les sens à cause de leur religion. Mais devant tant de personnes qui se perdaient, qui croyaient gagner, mériter quelque chose dans leur religion, dans les rites qu'ils accomplissaient, Jésus, il s'écrie. C'est quelque chose qui lui pèse sur le cœur. Il ne peut pas s'empêcher, au milieu de la foule, de dire que ça. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est la promesse de Jésus. Si tu veux boire, si tu veux que dans ton désert, tu veux obtenir la source qui va pouvoir abreuver, qui va pouvoir effacer tous ces mirages, qui va pouvoir te faire traverser le désert sans encombre. Vous savez qu'on peut traverser le désert sans encombre en ayant beaucoup d'eau. Et nous, notre source, elle se trouve en Jésus. Et ce qui est bien, c'est que c'est une source infinie, une source qui ne tarit jamais, une source qui va de plus en plus grandissant même. Jour après jour, nuit après nuit, Toutes les fois qu'on se tient dans sa présence, il y a la source du ciel qui coule dans nos vies, dans nos âmes, qui apporte la vie, même à cet endroit sec, à cet endroit touché par la chaleur, à cet endroit vraiment où ça pèse, où on est courbé à cause du fardeau, il y a la source de la vie qui est là, qui nous emporte et qui nous permet d'avancer malgré le désert. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La clé pour traverser le désert, la clé pour croire en Jésus, la clé pour même boire à cette eau vive, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Et la clé pour avoir une vie avec Dieu, c'est la foi. La clé pour que tout notre passé soit effacé, c'est la foi en son œuvre, en ce qu'il a fait à la croix pour nous. La foi de croire que Jésus est mort pour moi, à ma place, et qu'il a donné sa vie afin de porter la condamnation de mon péché, et surtout pour que je puisse me tenir devant Dieu. Et il y a cette image qui est fabuleuse, c'est l'image de la chaleur du soleil dans le désert. Et vous savez ce que ça représente? Ça représente quand on subit la chaleur du soleil, quand on est là, que... Il y a le soleil qui tape de toutes ses forces, qui fait 40 degrés. Ça représente la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, le fait que Dieu est un Dieu saint et que l'homme qui voudrait essayer de se tenir devant lui, eh bien, il est comme un homme dans le désert à la chaleur. L'homme pécheur, s'il se tient devant Dieu, eh bien, il ne va pas tenir. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Et moi, je vois cet homme... Cet homme, il est là au seuil du temple, devant la porte du temple, et tous les jours, il est confronté à l'interdiction. Vous savez que comme il est boiteux, il a interdiction formelle de rentrer et d'aller apporter son sacrifice, d'aller participer à toutes les louanges, à participer à entendre la parole. Peut-être qu'il entendait quelques bribes de ce qui sortait, mais combien vous savez qu'il n'était pas satisfait? C'est comme si ce soir il y avait cette réunion, mais que vous étiez assis sur le trottoir au dehors, dans le froid peut-être, s'il pleuvait certains jours, il était là, il devait rester parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer. Et face à la sainteté de Dieu, le pécheur il ne peut pas rester, à moins que par la foi, il revête Jésus-Christ. Vous savez, dans le désert, Les bédouins, ils ne sont pas habillés en maillot, ils sont habillés couverts le maximum. Même la tête est couverte par un turban, parce qu'il faut se protéger du soleil. Et si vous allez les voir, et qu'ils vous voient arriver en touriste avec la chemise à fleurs, vous savez, l'appareil photo, et tout de suite ils vont venir vous couvrir, parce qu'ils savent le danger de rester devant le soleil, dans la chaleur, rester comme ça. Si vous voulez rester dans la présence de Dieu, pécheur, ce soir, revêtez-vous de Jésus-Christ. Comprenez que Jésus, il est mort à votre place. Comprenez que Jésus, il a donné sa vie pour vous, afin que vous puissiez vous tenir dans la présence de Dieu. Le but de la mort de Jésus, c'est pas qu'on se sente plus pécheur qu'avant. Le but, c'est qu'on se sente pécheur, mais qu'on puisse quand même rentrer dans la présence de Dieu, par la foi. Ça, c'est le but de Jésus. C'est le but de toute cette table. C'est le but de toutes ces réunions qu'on fait. Le but, c'est que nous puissions accéder à la présence divine, que nous puissions accéder aux ces sources d'eau vive, quel que soit notre passé, quelles que soient nos douleurs, quelle que soit notre épreuve, quel que soit le mal qui nous touche peut-être en ce moment. Par le simple fait de la foi, je peux rentrer et accéder à la présence de Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'on lui est agréable. Ce soir, on peut être agréable à Dieu par la foi, malgré notre condition de pécheur, en se repentant, en se convertissant, et comme on l'a lu, du moment qu'on fait ces choses, on vit des temps de rafraîchissement. Maintenant, dernière question, et je finirai avec ça, pourquoi le désert? C'est une question intéressante, parce qu'on pourrait se dire, après tout, Dieu, il aurait pu faire les choses de telle sorte qu'il ne connaisse pas, il ne soit jamais boiteux, cet homme. Pourquoi il a connu ce désert dans sa vie? Pourquoi même nous, on connaît le désert dans nos vies, on connaît des moments de solitude, on connaît des moments où le diable vient rugir à notre oreille? Pourquoi nous, on connaît des moments où on a soif de quelque chose de nouveau, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien, tout est figé? Pourquoi le désert? Eh bien, on a la réponse. au verset 5, il est dit ceci, il est regardé attentivement, j'en ai déjà parlé, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Déjà, à ce moment-là, cet homme, il comprend qu'il a connu un désert, mais il a soif de quelque chose de plus, il veut que ça change. Et quand Dieu nous permet de traverser un désert, c'est pour que nos cœurs soient disposés à le rechercher. Souvent, quand on n'a pas d'épreuve, quand on n'a rien dans notre vie, on va avoir le réflexe de se détourner de Dieu, de lui tourner le dos. Et Dieu permet les épreuves dans notre vie pour que nous le cherchions, simplement. Pour qu'on s'attende à quelque chose. Peut-être qu'on ne sait pas mettre le mot dessus. Cet homme, il ne savait pas trop à quoi s'attendre de ces hommes. Mais quand Pierre lui a répondu plein de fois, il lui a dit, « Non, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent que je vais te donner. » Mais je vais te donner quelque chose que j'ai reçu. Je vais te donner la guérison par le nom de Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il est dit, et ce que j'aime dans l'attitude de Pierre au verset 12, quand il explique, il essaye d'expliquer aux gens ce qui s'est passé. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» C'est quelque chose de normal. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait ?» Marchez cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et c'est par la foi qu'il est. Donc, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi, a guéri donc ce boiteux. Que vous voyez et connaissez. Dieu permet le désert. Pourquoi ? Pour qu'on puisse glorifier Dieu dans nos vies. Cet homme, imaginez cet homme s'il n'avait jamais existé. Est-ce que Pierre aurait eu l'occasion à ce moment-là précisément de pouvoir parler à toutes ces centaines d'hommes qui couraient autour du temple dans tous les sens, qui venaient courir à la prière, mais qui étaient capables de venir courir à la prière et de passer devant un homme qui avait besoin de prière ? Vous imaginez le paradoxe. Et jamais personne n'est venu prier pour lui, si ce n'est Pierre et Jean. Mais voilà, Dieu il est capable d'utiliser même les anciens boiteux. Parce que, vous l'avez lu avec moi, après tout, Pierre, si je me souviens bien, à un moment donné, c'est pas lui qui a renié Jésus. Et regardez au verset 14. Et j'aime ce verset. J'aime surtout ce que ça représente. Vous avez renié le juste. Pierre est capable de regarder les hommes israélites en face et leur dire, vous avez renié. Moi aussi je l'ai renié. Moi aussi j'étais boiteux. Moi aussi à un moment donné dans ma vie, j'avais de l'audace, mais à un moment donné, cette audace elle s'est transformée en arrogance qui fait que j'ai dit quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Seigneur, je vais te défendre jusqu'à la mort. Et quand Pierre il s'est vu en danger, que le Seigneur avait besoin de lui, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu. Et pourtant, il est capable, cet ancien boiteux, parce qu'il a été restauré, il a cru en Dieu, il est capable maintenant d'annoncer et de dire aux autres, vous avez renié le juste. Moi, je l'ai renié, mais j'ai été béni, j'ai été guéri dans mon cœur, j'ai été pardonné, mon péché a été effacé parce que j'ai cru dans son sacrifice. Voilà pourquoi il est capable de leur dire ces choses. Pour nous, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que le désert, c'est quelque chose de vital aussi. Deutéronome 8, verset 15. Je lis pour vous. C'est Dieu, l'Éternel, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Donc c'est la volonté de Dieu que nous marchions dans le désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. On ne les avait pas cités, mais ils sont là aussi. Dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ qui a été frappé, afin que les eaux vives puissent couler dans le désert. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin, regardez bien ce qu'il est marqué, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Le but ultime du désert, le but ultime pour ce boiteux, de son désert à lui, c'était de faire du bien. Faire du bien non seulement au boiteux, mais à toutes les personnes qui entourent. Le but ultime du désert dans ta vie, même si c'est dur, même s'il y a peut-être la douleur, la Bible nous dit que, alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu a pourvu, il a donné de l'eau, il a donné à manger. Le but ultime, c'est que Dieu te fasse du bien. Et le vrai bien. Pas cette chose après laquelle tu vas courir et qui va te. Laquelle tu vas rester vide. Mais le bien qui dure et qui est éternel, la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est le bien. Et on va finir, et je vous promets que c'est la fin, on va finir avec ce dernier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 35. Vous inquiétez pas, il n'est pas très très long. 10 versets seulement. Ésaïe 35, je le lis pour vous-même. Le désert et le pays aride, c'est la promesse de Dieu, hein, pour ce soir en particulier, pour une vie qui traverse le désert. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu vient, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, attention, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude, le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Ça, c'est la promesse. Le boiteux, il a vécu littéralement cette promesse, alors que le Seigneur, au travers de Pierre et Jean, au travers d'anciens boiteux, au travers de gens peut-être qu'à un moment donné on a dénigré, mais qui ont été remplis du Saint-Esprit, remplis de force et de puissance, qui ont cru en Jésus, il s'est servi d'eux pour que le désert de ce boiteux se transforme en quelque chose de magnifique, qui soit un jardin avec des plantes aromatisées, à de bonnes odeurs, avec des sources d'eau qui coulaient de tous les côtés. Et la promesse, elle est pour nous aussi ce soir. Il y aura là un chemin frayé, le seul chemin qui peut traverser tous les déserts, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si ce soir tu veux venir accéder au Père, sortir de ton désert et comprendre qu'il est pour ton bien, viens à Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ, crois en son sacrifice et tu verras la bénédiction de l'Éternel t'accompagner. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui connaît les épreuves qu'on traverse. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu ne nous donnes pas des tentations au-delà de nos forces, Seigneur. Mais tu nous donnes, quand nous avons même une tentation, tu nous donnes le moyen de nous en sortir. Quand nous traversons une épreuve, tu es là dans l'épreuve. Et tu es bon pour nous dans l'épreuve, Seigneur. Tu nous abreuves, tu nous nourris dans l'épreuve. Merci, merci parce que tu es ce bon conseiller, ce bon père qui prend soin de ses enfants, qui nous permet d'avancer, et malgré nos échecs, qui nous permet d'apprendre. Merci parce que par la foi en toi, Seigneur, nous avons la possibilité de nous tenir devant Dieu, devant le Dieu juste et saint, devant le Dieu tellement saint que nous ne pourrions pas tenir devant lui à cause de notre péché. Mais par ton sang précieux, Seigneur, toutes les barrières, tous les obstacles, toutes ces choses qui sont là et qui pourraient se mettre entre nous et Dieu, elles sont abattues, elles sont déchirées. Et nous voulons ce soir, Seigneur, te prier pour ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne sont pas rentrées dans cette vie de plénitude avec toi, dans cette vie d'abondance, dans cette vie de bénédiction. Je te prie de les bénir en ce moment même. Je te prie de leur révéler ton amour. Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui permets les déserts, mais tu les permets pour notre bien. Tu les permets pour qu'on se tourne vers toi, pour qu'on crie à toi, Seigneur. Je te demande dans cette soirée que certaines personnes qui veulent te connaître plus puissent crier à toi simplement et que par la foi, elles puissent accéder à ton trône d'où tu vas exaucer leurs prières. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont reçu des blessures dans leur vie, des blessures du passé qui sont là et qui demeurent et auxquelles elles n'arrivent pas à se défaire, Seigneur. Je te prie pour ces personnes-là qui ont traversé des déserts de solitude, qui se sont retrouvés sans amis à un moment donné. Tu es le divin ami, Seigneur, l'ami le plus fidèle au monde. Seigneur, je te prie de vraiment éclairer leur cœur afin qu'ils réalisent que tu es tout, tu peux tout pour eux. Tu es capable même de guérir le boiteux. Seigneur, combien nous savons que c'est vrai. Combien nous voyons encore aujourd'hui que tu guéris, Seigneur, même les corps. Et Seigneur, quelle grâce tu nous fais aussi d'utiliser ces personnes qui ont été boiteux à un moment donné, mais qui se sont repentis, qui se sont convertis, qui se sont tournés leur regard vers toi. Tu es capable de les utiliser. Je te prie aussi pour ces chrétiens, peut-être, qui sont boiteux dans leur esprit à un certain endroit, que tu montres en ce moment. Je te prie de les bénir, Seigneur, afin qu'eux aussi puissent être des bénédictions entre tes mains, afin que tu puisses les utiliser pour que d'autres soient bénis, Seigneur. Et dans ton nom précieux, j'ai prié pour tous ces sujets. Amen.